Vous pouvez vous rasseoir. Nous sommes aujourd'hui, c'est un culte spécial, n'est-ce pas? C'est le culte des... Qui est jeune dans la salle? Lève la main. Merci Seigneur, ils ont tous compris qu'ils sont jeunes. Qui est étudiant dans la salle? Lève la main. On est tous étudiants. Au moins de l'école de Dieu. Donc, c'est un culte pour nous tous. Okay. Mais c'est vrai que particulièrement, c'est un culte qui s'inscrit dans un contexte spécial, puisqu'on est en période d'examen. Là, je parle comme les jeunes. Donc, je prends un peu la posture et le ton, parfois les mots, pour pouvoir me contextualiser, m'adapter. On est dans une période d'examen, c'est-à-dire d'examen scolaire. Et ce n'est pas une période facile. J'ai connu cette période également. C'est très stressant. Il y en a qui ont étudié. Parfois, ils se retrouvent devant la feuille, ils perdent, je veux dire, les idées. Il y a des trous de mémoire et ils ne comprennent pas pourquoi. Donc, il y a le stress qui est difficile à gérer. Il y a parfois des réalités spirituelles aussi qui agissent. Ça, il faut l'avouer. Et donc, il y en a qui échouent, non parce qu'ils n'ont pas étudié, non parce que, voilà, ils ont été, comme dit certains, nuls. Non, ils ne sont pas nuls. Mais parce que, justement, il y a des clés qui leur manquent pour aborder leurs examens comme il faut et pouvoir aborder leurs études, leur vie scolaire comme il faut. Et ce matin, lors du premier culte, ça nous a déjà posé le fondement en nous faisant comprendre qu'un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Et tout don parfait, toute grâce excellente vient d'en haut. C'est Dieu qui nous donne la capacité. Amen. C'est Dieu qui nous donne l'intelligence, qui nous donne la grâce de réussir. Et donc, on a intérêt à voir Jésus-Christ dans notre cœur comme Sauveur et Seigneur. Et donc, le Seigneur nous a révélé le Dieu de Jésus-Christ. C'est celui qui est le Dieu de la science. Et que tous les grands savants qui ont fait des grandes inventions sur la terre, la majorité, ce sont des Juifs. Pourquoi? Parce que le peuple juif, c'est le peuple que Dieu a choisi pour se révéler à l'humanité entière. Donc, c'est le premier peuple par lequel le salut est venu. Et après, il s'est répandu à travers Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Et de sorte que maintenant, quand Jésus est mort, il a brisé les murs de séparation. Et maintenant, il n'y a plus ni juif, ni grec, etc. Nous sommes tous maintenant peuple de Dieu. Et nous pouvons tous devenir enfants de Dieu à travers la croix de Jésus, à travers la personne de Jésus-Christ. C'est pourquoi il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par moi. On a compris que lorsqu'on est chrétien, on a la grâce. On est libéré du pouvoir, de la malédiction, de la mort. La mort, ce n'est pas seulement le fait que quelqu'un quitte la terre, on l'enterre, et puis finalement, il va au-delà. La mort, c'est une perte de vie. Même si quelqu'un est vivant physiquement, il peut être mort. Et Jésus l'a dit, hein, vous êtes mort, quoique vivant. Et on le voit, Adam et Ève, lorsque Dieu leur dit, si vous mangez l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous mourrez. Quand ils ont mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, physiquement, ils étaient bel et bien vivants, ils n'étaient pas morts. Et on pourrait croire que Dieu a menti. Non, Dieu n'a pas menti. Dieu ne parlait pas forcément de la mort physique. Quand bien même la mort physique s'est manifestée plus tard, puisque l'homme était destiné à vivre éternellement. Donc la mort physique s'est manifestée plus tard par l'effet de l'usure. Hein. Mais il parlait plus de la mort spirituelle. Et cette mort spirituelle, c'est la perte de la vie éternelle. Donc en acceptant Jésus-Christ dans nos cœurs comme Sauveur et Seigneur, en devenant chrétien, nous retrouvons cette vie-là, qui était à l'origine, dans le jardin d'Éden, quand Dieu a créé l'homme. Cette vie qui lui donne effectivement de pouvoir manifester la nature et la vertu, ou du moins les vertus de la divinité. On a compris que lorsque cette vie est absente, donc la mort s'installe. La mort, c'est ce que certains appellent aujourd'hui la malédiction. Elle se manifeste sous plusieurs formes, par la malédiction, par cette, comme certains disent, la malchance, ou encore par la poisse. C'est la mort, en fait. Ce sont les manifestations de la mort, l'échec. Donc tout ce qui est malédiction, poisse, malchance, échec, sont en fait finalement des manifestations de la mort. Mais lorsque vous acceptez Jésus dans votre cœur comme Sauveur et Seigneur, il vous donne sa vie. Parce qu'il a dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Et quand vous recevez la vie éternelle, la mort disparaît. La santé divine prend place, la guérison germe, et comme des eaux vives, cette vie coule dans votre être tout entier, irrigue votre esprit, âme et corps, irrigue vos cellules, donc elle vous rajeunit cette vie, irrigue vos muscles, elle vous rend dynamique, même à 70 ans, 80 et plus, vous êtes toujours dynamique. Cette vie, quand elle irrigue vos émotions, vous n'êtes pas déprimé, vous n'êtes jamais déprimé, vous êtes toujours joyeux, joyeuse, épanouie. Cette vie, lorsqu'elle irrigue votre cerveau, elle touche vos neurones, elle stimule votre créativité, votre intelligence, votre imagination. Elle vous rend intelligent, elle vous rend vraiment créatif, créative, elle vous rend inventif et vous devenez vraiment un savant, vous devenez un créateur, voilà, vous devenez quelqu'un d'important qui découvre des choses, qui découvre des concepts, des théories et qui contribue effectivement au développement de la société et qui contribue également à l'évolution même de la science sur la Terre. Et c'est pour cela que la plupart des grands savants qui ont posé les premières bases de la mathématique, de la physique, de l'arithmétique, de tout ce qui est en ic, là, c'était des juifs. Parce qu'ils avaient le Dieu de Jésus-Christ, celui qui donne la vie. Et certains d'entre eux ont été persécutés du fait de leur découverte. Certains d'entre eux, effectivement, ont par révélation, parce qu'on les appelait parfois des illuminés. Quelqu'un comme Galilée, on dit, mais c'est un illuminé. Et ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'en fait, c'est des gens qui étaient en avance par rapport à leur temps. C'était un type de prophète qui voyait. Il dit que la terre tourne autour d'elle-même. Ce n'est pas le soleil qui tourne autour de la terre. La terre tourne autour d'elle. Ah, lapidez-le! Mais après, ils ont découvert plus tard que finalement, la terre tourne autour d'elle-même. Quelqu'un comme, par exemple, Newton, qui découvre la loi de la gravitation par un effet de lumination et de révélation. Il a été illuminé, mais en fait, ce n'est pas comme le monde le pense. L'apôtre Paul le dit, on verra tout à l'heure, qu'il illumine les yeux de vos cœurs. Il a été illuminé par le Seigneur. Une pomme qui tombe sur sa tête et puis découvre effectivement que lorsqu'un objet est lâché dans l'espace, il est attiré automatiquement par une loi qui le tire vers le bas. C'est la loi de la pesanteur, de la gravitation. Et puis quelqu'un d'autre a découvert effectivement une autre loi qui lui a permis effectivement de contrer la loi de la gravitation, la loi de l'aérodynamique. Tout ça, c'est par révélation de l'esprit. Et quand vous remontez l'histoire, la biographie de tous ces personnages, même celui qui a découvert la lumière, Thomas Edison, après avoir échoué pendant 100 fois, il a compris la loi de la persévérance et la foi. Et la Bible dit que c'est par la foi que les parents de Moïse ont vu que l'enfant était beau de figure. Donc, en grec, en hébreu, ont perçu, la traduction hébraïque, ont perçu, donc par révélation, que l'enfant avait une grande destinée. Ils l'ont caché et ils n'ont pas craint Pharaon. Et la Bible déclare que même quand Moïse a grandi, c'est par la foi aussi qu'il refusa à un moment donné d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Aimant mieux être traité avec ses frères, son peuple hébreu, que de jouir des bienfaits du palais royal égyptien. C'est des gens qui étaient en avance par rapport à leur temps. Quand ils ont découvert la loi de la foi, elle leur a ouvert les yeux et ils ont perçu les choses qui devaient arriver. Et ils ont pris de décision, ils sont positionnés. 100 fois plus tard, après avoir échoué, Thomas Edison découvre les premiers néons et les met en place. Et aujourd'hui, nous sommes bénéficiaires de la découverte de Thomas Edison. Je pourrais parler de plusieurs autres grands savants. Quand vous lisez l'histoire ou la biographie de toutes ces grandes découvertes, des grands savants qui étaient à l'origine, vous découvrez des points communs. Parmi eux, il y en a qui étaient des grands philosophes, des grands mathématiciens, des grands physiciens. Et derrière, c'était des grands lecteurs de la parole de Dieu, des grands lecteurs de la Bible. Au point qu'aujourd'hui, certains contemporains, comme par exemple des grands hommes riches qui ont été à l'origine des grandes découvertes, mais qui sont aujourd'hui encore vivants de nos jours. Je peux par exemple parler des grands hommes comme, je vais citer Bill Gates. Bill Gates, lui, en fait, il a compris tellement de choses parce qu'il lit la parole de Dieu, parce qu'il lit la Bible. Après, je ne vais pas rentrer dans sa vie privée, comment il vit sa vie chrétienne, mais il y a un point commun, j'aimerais attirer votre attention sur le fait que tous ces grands savants avaient un point commun, c'est qu'ils lisent la Bible et qu'ils lisaient la Bible. Et les contemporains aujourd'hui lisent encore cette Bible-là. Au point que certains d'entre eux ont décidé de donner pour les œuvres humanitaires caritatives 90% de leurs revenus et ne vivent que de 10%. Donc au lieu de donner 10% au Seigneur et de vivre de 90%, ils ont inversé. Ils ont donné 90% au Seigneur et ils vivent uniquement de 10%. Et rien que les 10% avec lesquels ils vivent suffisent pour leur vie, leur descendance et l'héritage de leur postérité. Je pourrais citer bien d'autres. Le temps me manque de parler de Caterpillar ou encore de Colgate. Que vous utilisez les Colgate au fluor, vous ne savez pas. Mais c'est des gens, effectivement, qui étaient croyants, chrétiens, et qui ont effectivement régulièrement lu la Bible. Et en lisant la Bible, ils ont découvert des lumières, des révélations. Et c'est dans cette optique-là que j'aimerais vous amener aujourd'hui, chers jeunes, chers étudiants, à comprendre que le succès vient de Dieu. Alléluia. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Jean chapitre 3, verset 27. Un homme ne peut recevoir que ce qui a été donné du ciel. Et il rajoute, vous-même, m'êtes témoin que j'ai dit, moi je ne suis pas le Messie, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui qui a la mariée, c'est le marié. Mais l'ami du marié, qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix du marié. Donc, c'est Jean-Baptiste qui est en train d'annoncer l'arrivée de Jésus. Ainsi donc, cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il grandisse et que moi je diminue. C'est Jean-Baptiste qui parle. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre. Voyez-vous? Celui qui vient de Dieu est au-dessus de tous ceux qui viennent d'en haut. Qui vient d'en haut ce matin, lève la main. Il n'y en a pas beaucoup qui viennent d'en haut. Jésus dit à Nicodème, il dit, vous êtes né d'en haut. Celui qui est né de nouveau, il est né d'en haut, n'est-ce pas? Donc tu viens d'en haut. Et la Bible dit que comme tu viens d'en haut, tu es supérieur à celui qui est terrestre. C'est pour cela que ces savants-là, ils ont compris ça. Ils ont compris qu'ils ont besoin de se connecter à ce qui est en haut pour être supérieur à ce qui est sur la terre. Voilà pourquoi ils étaient en avance par rapport à leur temps. Tu es étudiant? J'aimerais te dire une chose. Tu veux la sagesse et l'intelligence. Au-dessus de toute intelligence, tu as besoin de te connecter à Christ. C'est Jésus qui donne cette intelligence et cette sagesse. Josué chapitre 1, verset 8. Josué chapitre 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Voyez-vous, comme ce matin je le disais, il y a deux mots ici, c'est succès et réussite. Deux mots qui sont différents. Et la Bible fait la nuance entre le succès et la réussite. Donc ce matin, j'ai bien expliqué la différence entre les deux. Et surtout, j'ai montré que c'est important de comprendre que le succès n'est que la conséquence de comment on a pu gérer notre réussite. La réussite n'est que la conséquence de comment on a pu gérer notre succès. Parce que le succès, c'est un éclat, c'est une renommée. Tu as eu des diplômes à l'école, tu as brillé par tes notes, c'est très bien. Mais maintenant, après, il faut que tu réussisses dans la vie. Okay, je parlais de plusieurs personnes qui ont eu du succès, qui ont eu des trophées, qui ont brillé, mais qui n'ont pas réussi dans la vie. Mike Tyson, par exemple, il a eu plusieurs trophées, il a eu vraiment plusieurs médailles. Il a brillé, il a eu une renommée, une notoriété, mais il a fini comment? Surendetté. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas su gérer ses temps de succès. Il n'a pas su gérer ce succès et en faire une réussite. Il s'est retrouvé surendetté. Celui qui a eu des millions de dollars, il s'est retrouvé surendetté. De multimillionnaire à surendetté, c'est que vraiment il n'a pas su gérer le succès. Combien de sportifs, combien d'artistes, combien de grands hommes politiques ont eu du succès, et combien d'hommes de Dieu aussi ont eu du succès à travers leurs dons, à travers leur charisme, à travers leur dimension d'onction, mais qui n'ont pas réussi dans leur ministère, dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on verra les principes tout à l'heure, le succès est une chose, mais la réussite en est une autre. Mais évidemment, la réussite est une conséquence, et doit être une conséquence de comment on a pu gérer notre succès. Dieu donne l'intelligence nous donne le succès, mais la sagesse bâtit la maison. C'est par la sagesse, effectivement, que nous allons réussir. Et c'est comme ça que beaucoup d'étudiants également ont eu de belles notes à l'école, de grandes notes, ont été primés dans leur classe, etc., mais finalement n'ont pas réussi dans la vie, mais parce que certainement, elles n'ont pas ces personnes, ou du moins, ils n'ont pas ces gens-là, eu les clés nécessaires pour gérer leur succès. Donc après ce résumé rapide, condensé de ce qu'on a vu au premier culte, j'aimerais vous amener pas à pas à découvrir justement les clés qui vont nous aider à avoir du succès, mais à transformer ce succès en réussite. Peu importe le domaine, je parle aux étudiants aujourd'hui, mais ça peut concerner également les hommes d'affaires, ça peut concerner ceux qui aspirent au ministère. C'est vraiment, je vais dire, des clés qui sont transversales. Ça touche tous les domaines. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Voyez-vous? Tous les grands savants dont je parlais, ils ont compris ça. Ils ont compris que le succès et la réussite viennent de ce livre de la loi, le livre des livres, c'est-à-dire la Bible, la parole de Dieu. Le succès vient de la parole de Dieu. C'est pourquoi il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu réussiras. Alléluia! C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est-à-dire quand tu vas faire une entreprise, cette entreprise va prendre, elle va avoir de la notoriété, elle va attirer des clients du monde, ta marque va être connue à travers le monde entier, les clients viendront, tu auras des clients, des marchés, des contrats, des réseaux, des connexions, des réseaux influents. Ça, c'est le succès. Tu connaîtras des grands hommes, tu seras introduit dans des hauts lieux, des portes s'ouvriront pour toi. Ça, c'est le succès. Mais parce que tu aurais agi fidèlement selon tout ce qui est écrit, non seulement tu auras du succès, mais aussi tu réussiras. Donc le succès et la réussite sont attachés à la parole de Dieu. Un, à la méditation de la parole de Dieu. Deux, et au fait d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, sans compromission. Sans compromission. Être fidèle à ce qui est écrit. Parce qu'à un moment donné, en plein succès, lorsque tu atteins l'apogée même du succès, ben tu te retrouveras comme Jésus au sommet de la montagne et le diable va te proposer les royaumes de la terre. Quelle sera ta réaction et ton attitude en ce moment-là? Le Seigneur lui dit, tu devras agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Dites avec moi le succès et la réussite. Hein? Sont contenus dans la parole de Dieu et s'obtiennent en méditant la parole de Dieu et en agissant fidèlement selon tout ce qui est écrit. Psaume chapitre 1. Psaume chapitre 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se fait tout point. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Il n'en est pas ainsi, autant pour moi, des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. En fait, Dieu considère ici les méchants. Il considère quelqu'un comme méchant à partir du moment où cette personne s'assoit accompagnée des moqueurs, marche selon le conseil des méchants et s'arrête sur la voie des pécheurs. Il s'assoit avec les moqueurs et il ne trouve pas son plaisir dans la loi de l'Éternel. Quelqu'un comme ça, la Bible l'appelle le méchant. Voilà pourquoi il fait la comparaison avec ceux qui méditent la parole de Dieu et les méchants. Ceux-là qui ne s'assoient pas contre les moqueurs et les méchants. Donc si tu marches selon les voies de ce monde, dans les convoitises de ce monde, selon le conseil des méchants, et tu ne t'arrêtes pas pour méditer la parole de Dieu, et tu ne marches pas selon les voies du Seigneur, la Bible t'appelle méchant. Et il dit pour toi, il n'en est pas ainsi. Tu es comme une paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Donc dans ces deux passages, nous comprenons que Josué, comme le psaume, nous montre l'importance de la parole de Dieu. Lorsque la parole de Dieu est au centre de notre vie, nous avons la garantie du succès et de la réussite. Comme un arbre planté plein d'un courant d'eau, nous réussirons. On aura toujours notre feuillage verdoyant. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est que, ok, dit comme ça, c'est textuel, mais comment concrètement la parole de Dieu peut me donner du succès et de la réussite? C'est ça que j'aimerais vous expliquer. Dans la parole de Dieu, le succès. Dans la parole de Dieu, la réussite. Mais comment cela peut se traduire dans ma vie? Comment est-ce que cette parole peut agir en moi? Le fait que je la lise simplement va me donner du succès? Le fait que je la médite va me donner du succès? Et pourtant, je la lis, pourtant, je la médite. Bon, d'accord, maintenant, je ne la méditais pas. Tu me l'as dit, ok, j'ai compris, c'est important de le faire. Mais rien que le fait de lire la Bible va me... Comment ça se fait? Humainement, on ne peut pas le comprendre. Mais spirituellement, il se passe des choses. Dans la vie des personnes qui lisent la Bible, qui la méditent, il se passe des choses que ces personnes ne savent pas, que ces personnes ignorent. Ça se passe sur le plan invisible. Et Dieu opère dans la vie de ces personnes, dans leur vie de façon invisible sur le plan spirituel, pour leur amener le succès et pour garantir la réussite dans leur vie. Et nous allons voir ça dans la parole de Dieu, comment cela se fait concrètement. Premièrement, on reste dans Josué, cette fois-ci au verset 9, donc la suite, on est au chapitre 1, verset 9. Après avoir dit que ce livre de la loi est sur la pointe de ta bouche, mettez-le jour et nuit, etc., il lui dit, « Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Donc, pourquoi Dieu parle à Josué ici et lui dit, pourquoi Moïse parle à Josué et lui dit que ce livre de la loi ne soulève point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, c'est alors que tu auras du succès dans ton entreprise, c'est alors que tu réussiras. Mais parce que Moïse lui-même, pour réussir dans son ministère, parce que là, il est en train de passer le flambeau à Josué. Pour réussir dans son ministère, Moïse lui-même a dû être attaché à ce livre. Moïse lui-même a dû expérimenter les préceptes, les commandements et les lois contenus dans ce livre. Et c'est à partir de là qu'il a compris que le secret est dans ce livre. Le secret est dans la Bible. Le secret du succès est dans la Bible. Le secret de la réussite est dans la Bible. Donc maintenant qu'il s'en va et qu'il laisse le flambeau, il passe le flambeau à Josué, il lui donne les mêmes recommandations. Donc c'est un héritage, dites un héritage, que Moïse laisse à Josué en ce moment-là. Il dit, voici l'héritage. C'est comme un père qui a parcouru la terre, il a vécu sa vie, il a fini, il est maintenant sur son lit de mort, il est en train de laisser des instructions à ses enfants. Et il dit, mon fils, si tu veux réussir dans la vie, voici le secret. J'ai tout fait dans la vie, mais retiens une seule chose. Le secret, c'est ce livre. C'est l'héritage que je te donne. Donc Moïse laisse un héritage ici à Josué. Et comme il connaissait Josué, guerrier, et il connaissait les combats de Josué, il savait que le problème de Josué, c'est la peur. Donc, il nous fait comprendre ici, à travers les recommandations qu'il laisse à Josué, il dit à Josué, ne t'ai-je pas dit, ne te frais point. Il dit, ne te frais point. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne te frais point. Ça veut dire le problème de Josué n'était pas savoir ou ne pas savoir gérer une armée, ne pas savoir manipuler des armes de guerre. Josué était entraîné à la guerre. Josué était un guerrier. Josué, c'est un visionnaire. On a vu avec Caleb lorsqu'ils vont à Canaan. Quand ils reviennent, c'est eux qui ont la vision différente. Ils disent, quand les autres disent, ah, là-bas il y a des géants, des fils d'Anak, ils vont nous manger, à leurs yeux, à nos yeux, nous étions comme des sauterelles. Eux, quand ils arrivent, ils voient autre chose. Ils disent, allons-y, hein. Il y a des géants, certes, mais nous les combattrons, nous les vaincrons, l'Éternel nous donnera la force. Ils avaient en fait un autre discours. Donc c'était des hommes visionnaires, ils étaient au niveau d'un autre esprit, c'est clair. Donc au niveau du caractère, oui, ils étaient courageux quelque part, mais Moïse connaissait Josué. Moïse connaissait un trait de sa personnalité, c'est que Josué pouvait être intimidé. Voilà pourquoi quand il laisse son héritage, il attire son attention sur ce trait de caractère. Ne t'ai-je point donné cet ordre? Prends courage. Prends courage. Ne t'effraie point. Je vais vous dire une chose ici. Beaucoup d'entre vous, vous êtes intelligents. Vous avez des capacités inouïes. Vous êtes doté de capacités, de potentialités que vous n'imaginez même pas. Mais le problème, c'est que chaque fois que vous êtes en face d'une épreuve, et particulièrement en période d'examen, vous commencez à paniquer. Devant l'épreuve, vous avez comme une forme de peur qui monte en vous, où la veille même de l'examen, vous commencez à paniquer, vous commencez à stresser, à avoir peur. Et du coup, quand vous arrivez dans la salle d'examen, tout ce que vous avez appris devant la feuille disparaît. Et votre mémoire devient aussi blanche que la feuille blanche qui est en face de vous. Vous êtes un Josué. Et ce que la Bible peut vous apporter, ce que la parole de Dieu peut vous apporter, ce que vous pouvez trouver comme clé dans la parole de Dieu, qui va vous permettre d'avoir le succès et la réussite, c'est le courage. Voilà pourquoi il dit à Josué, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans ton entreprise. C'est alors aussi que tu réussiras. Et il complète en disant, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Prends courage, ne t'effraie point. Donc le problème de Josué était à ce niveau-là. Et la parole de Dieu viendrait dans sa vie pour résoudre ce problème. Alors je ne sais pas ce qui se passe à la veille de chaque examen dans ta vie. Je connais une sœur. Pendant qu'on était en pleine prière, c'était dans une église de maison. À l'époque, je n'étais pas encore pasteur, mais le don prophétique commençait à se manifester dans ma vie. J'entends dans mon esprit cette parole pour cette sœur. Comme tout à l'heure, on a été béni par des paroles prophétiques pendant les temps de prière, adoration. J'ai été poussé par l'esprit à libérer cette parole sur cette sœur. J'entends dans mon esprit l'amour parfait bannit la crainte. L'amour parfait bannit la crainte. L'amour parfait bannit la peur. Car la peur, la crainte ne sont pas dans l'amour. Et quiconque aime ne crains point. Juste cette parole, le Saint-Esprit est descendu sur cette sœur. Elle s'est mise dans un état, on savait que là, ce n'était plus elle. Elle était comme en transe. En fait, ce qui venait de se passer, c'est que Dieu lui a envoyé la parole. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Cette parole, je l'ai proclamée de ma bouche. Elle est tombée sur cette sœur. Et comme la Bible déclare, la parole qui sort de la bouche de l'Éternel ne retourne point à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle a été relâchée, sans avoir produit un effet. Elle est tombée sur cette personne qui avait ce problème-là. Et du coup, les esprits qui étaient derrière, qui étaient en elle, se sont manifestés sous la puissance de la parole de Dieu. Et les démons qui étaient en elle se sont manifestés. Il fallait l'attraper, il fallait 3-4 bons gaillards pour la saisir. Elle était insaisissable, c'était difficile à maîtriser. Elle commençait à convulser, elle commençait à rendre. On a prié pour elle, sa délivrance a pris au moins une semaine. Et après sa délivrance, quand elle était complètement libérée de cet esprit, en fait c'était un esprit de peur. Et la parole de Dieu est venue pour détecter cet esprit. La parole de Dieu a été envoyée, la Bible déclare qu'il leur envoya sa parole est guérie mais elle la délivra aussi de la fosse. Donc la parole a été envoyée pour la délivrer de cet esprit. Et à cause de la parole de Dieu qui a été confessée par ma bouche, l'esprit a été détecté, démasqué. Et l'esprit donc de crainte, de peur qui était dans la vie de cette sœur s'est manifesté. Et on l'a chassée au nom de Jésus. Et quand la sœur a été délivrée, elle a rendu témoignage. Elle a dit, c'était impressionnant, c'était en période d'examen. Et je ne savais pas ça, elle était en période d'examen. Et chaque année, à chaque fois qu'elle est en période d'examen, donc la veille, au moins une semaine avant, tout d'un coup, elle est saisie d'une peur terrible. C'était une sœur très brillante durant toute l'année. Même les profs ne comprenaient pas qu'une fille aussi intelligente. Les notes de classe et tout ça. Mais pourquoi en période d'examen, quand elle doit passer son doctorat, c'est là que maintenant, tout d'un coup, tout ce qu'elle a appris disparaît. Et quand il s'agit de composer, elle perd tout. Pourquoi? Parce qu'il y avait un esprit qui était dans sa vie. Un esprit de peur, un esprit de crainte qui l'a paralysé. La peur paralyse et détruit les capacités que Dieu t'a données. La peur paralyse tes facultés de création ou de créativité. La peur paralyse et rend infructueuse ton intelligence. Là où tu étais capable de penser et de bien réfléchir, là où ton intelligence était fertile, face à la peur, du coup, elle devient paralysée. Elle devient comme tétanisée, en fait. Et elle nous expliquait, quand elle rendait témoignage, que quand elle était dans ces moments-là, à la veille de chaque examen, elle était bloquée, elle n'arrivait même plus à lire. Elle avait tellement peur qu'elle avait des crampes d'estomac qui se manifestaient en elle. Donc, elle ne pouvait même plus lire. Elle n'était plus concentrée. Et tout d'un coup, quand ça l'attaquait comme ça, non seulement elle avait des crampes d'estomac, mais des fois, elle se mettait à rendre, à vomir. Et elle ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Et pire encore, par moments, quand cet esprit la saisissait, elle était tellement paralysée qu'il y avait des boutons qui sortaient dans son corps. Sur sa peau. Elle avait des boutons qui sortaient sur sa peau. Donc, elle ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Mais en fait, il y avait un esprit de peur qui était attaché à sa vie et qui paralysait son intelligence, qui paralysait sa mémoire, qui paralysait ses capacités, qui la paralysait elle-même et qui s'est manifestée par les crampes d'estomac, par les vomissements et par parfois des boutons qui sortaient sur la peau. Et quand la parole de Dieu a été envoyée sur sa vie, l'Esprit s'est manifesté. Elle a été libérée sur l'Esprit. Et ça s'est passé la veille de ses examens, je ne savais pas, quand on a prié pour elle. Et elle nous a dit, mais quand elle est partie en examen, dans la salle, elle n'a jamais ressenti de toute sa vie une telle paix, une telle sérénité. Elle était tranquille, en paix. Elle a composé, mais avec une aisance comme pas possible. Et après, elle a fait la soutenance. On est parti assister à sa soutenance. C'était, je crois, c'est Bordeaux 1, là, du côté de la Victoire, c'est ça, hein, en médecine, parce qu'elle était, elle passait un doctorat en médecine, dentiste. Voilà, dentiste. On est tous partis l'assister pour prier avec elle. On était là. Et à la fin, quand elle a parlé, tout le monde était tellement impressionné, même le jury, tellement impressionné, qu'on a dit, mais tu parles comme un livre. Elle a reçu la mention honorable. Alléluia. Pourquoi? Parce que la puissance de la parole l'a libérée de l'esprit de crainte et de peur. Quelqu'un s'y acclame le Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi Moïse dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Le succès et la réussite sont attachés à la parole de Dieu. Et Josué avait un problème. C'est qu'il était parfois stressé. Il manquait parfois de courage. Il avait peur parfois. La peur. Et donc Dieu nous montre ici que si tu as un problème comme Josué, si tu avais peut-être peur avant de venir ce matin, il y a une clé importante dans la parole de Dieu. La parole de Dieu peut te libérer. La parole de Dieu a la puissance suffisante pour te libérer de la peur. Te libérer du stress. Tu es stressé devant les examens, les évaluations, tu es stressé devant les copies. Tout ce que tu as appris, que tu as étudié, semble disparaître de ta tête, de ta mémoire. Lis la parole de Dieu. Ce n'est pas à la veille de l'examen que tu vas lire la parole de Dieu. Non. En fait, médite la parole de Dieu jour et nuit. Et quand tu médites la parole de Dieu jour et nuit, en fait, ça devient pour toi une vie, un style de vie, une habitude, une bonne coutume. Et lorsque tu le fais, la Bible nous dit que tu es comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Qu'est-ce qui fait l'arbre planté près d'un courant d'eau? À chaque année, il donne son fruit, son feuillage est toujours verdoyant. Est-ce que vous avez déjà vu un arbre planté près d'un courant d'eau faire des efforts? Ah, c'est la saison maintenant de produire des feuilles. Il muscle ses branches comme des muscles. Première feuille sort. La première feuille est sortie. Ah là là, je dois produire 1000 feuilles, mais c'est chaud là, c'est compliqué. Je ne suis qu'encore la première, mais je ne sais pas comment je vais faire. Allez, on se motive encore, deuxième. Deuxième feuille. Non. Ou bien, il faut porter du fruit. Ah là 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 là, on attend de moi 30 fruits, ou bien 100. Comment je vais faire? Alors, il se muscle les branches comme les muscles. Premier fruit sort. Non. Enfin, si quelqu'un a déjà vu ça, qui me disent aujourd'hui. Alléluia. Non. L'arbre ne fait aucun effort. L'arbre est imperturbable. L'arbre est planté. Dites planté. L'arbre ne bouge même pas. Mais les feuilles sortent elles-mêmes. Les feuilles sortent d'elles-mêmes et le fruit sort de lui-même. Pourquoi? La Bible nous l'explique. Il dit, comme il est planté près d'un courant d'eau, en fait, ce qui se passe, c'est que le courant d'eau irrigue ses racines. Et donc, l'eau rentre par les racines, irrigue le tronc de l'arbre et produit ce qu'on appelle la sève. Cette sève-là, c'est la vie de l'arbre. C'est le résultat de la rencontre de l'eau avec l'arbre. Et donc, la sève va circuler dans le tronc de l'arbre et va circuler dans les branches. Et la sève va donner la capacité de produire des feuilles. Et des feuilles, du fruit. Donc c'est la vie de l'arbre, en fait, qui se manifeste. Donc le feuillage verdoyant n'est que la manifestation, le reflet de la vie de l'arbre. Le résultat de la sève. Et le fruit aussi, c'est le résultat de la sève. Donc quand tu lis la parole de Dieu, la Bible te dit que tu es comme ce arbre qui est planté près d'un courant d'eau. Donc la parole de Dieu devient pour toi un courant d'eau. Et toi tu es un arbre. Et quand tu lis, tu es connecté à l'eau, au courant d'eau, comme l'arbre est connecté au courant d'eau. Et comme tu lis la parole de jour et nuit, tu es comme ce arbre-là qui est planté près du courant d'eau, jour et nuit, il ne bouge pas. Et donc, il reçoit régulièrement de l'alimentation. Et cette eau-là rentre en toi et devient en toi une source d'eau, un fleuve d'eau vive qui ne tarit pas et qui jaillit dans toute l'éternité. C'est pour cela qu'en permanence, tu auras toujours de la sève, c'est-à-dire tu auras toujours de la vie en toi. Et cette vie-là va produire un feuillage verdoyant. Et cette vie va également te donner la capacité de produire. En fait, c'est même cette vie-là qui va produire. Ce n'est pas toi qui produis, c'est la vie qui va produire, c'est le Saint-Esprit qui produit. Voilà pourquoi on parle du flux de l'esprit. Donc, ce n'est pas toi qui produis, en fait, parce que si je dis que c'est toi qui produis, c'est comme si tu fais un effort. C'est la sève qui est en toi. C'est la vie de l'Esprit qui est en toi. C'est le Saint-Esprit qui est en toi, en fait, qui produit en toi le feuillage verdoyant, l'éclat, l'épanouissement, qui produit en toi, en fait, cette apparence de quelqu'un qui est toujours en pleine forme, dynamique, vigoureuse, alléluia, heureuse, alléluia, je parle de toi ce matin, alléluia. C'est la vie qui est en toi, là, qui circule comme des fleuves d'eau vive, qui jaillit, là, comme une sève qui fait que, en fait, lorsqu'elle circule dans la branche de l'arbre, alléluia, dans le tronc de l'arbre, produit des feuilles, produit du fruit. En fait, même le fruit que tu portes là, ce n'est pas toi qui le produis, c'est la sève qui produit. En fait, le Saint-Esprit qui est en toi, c'est comme la sève. Donc, ce n'est même pas toi qui portes ce fruit, c'est le Saint-Esprit qui est en toi qui produit ce fruit. Voilà pourquoi on parle du fruit de l'Esprit. On n'a pas dit le fruit de Dimitri. Quelqu'un me comprend ici? C'est le fruit de l'Esprit. Donc, le fait que tu aies un bon caractère, ce n'est pas toi qui le fais. C'est le Saint-Esprit. Le fait que tu sois quelqu'un de docile, ce n'est pas toi qui produis ça. C'est le Saint-Esprit. Le fait que quelqu'un cesse d'être violent, qu'il devienne calme, ce n'est pas lui qui produit ça. C'est la sève qui est en lui. Quelqu'un me comprend ici? Je parle de la sève. Je parle de la vie qui est en toi. Jésus a dit à la femme samaritaine, si tu bois de cette eau, elle deviendra en toi un fleuve d'eau vive qui jaillira dans toute l'éternité, qui va irriguer ton être entier, esprit, âme et corps, et qui va façonner ta vie. C'est le Saint-Esprit qui façonne ta vie. C'est le Saint-Esprit qui te donne l'amour de la parole de Dieu, l'amour de la prière, l'amour de la présence de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui produit ça en toi. C'est le Saint-Esprit qui change ton caractère, qui change ta personnalité, qui change ton identité, qui te modèle, qui te façonne et qui donne de porter du fruit. Alléluia. Et c'est quoi le fruit? La paix, la joie, l'amour, la foi. Même la foi est produite par cette sève. Alléluia. La foi est produite par le Saint-Esprit. Alléluia. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Comme la sève produit les feuilles, produit le fruit, de la même manière, le Saint-Esprit en toi produit ce fruit. Quelqu'un ici acclame Jésus. Alléluia. Donc voilà pourquoi la parole de Dieu insiste, Moïse insiste, et puis le psalmiste insiste sur la nécessité de pouvoir lire la parole de Dieu. Mais attention, il ne faut pas seulement la lire, mais il faut la méditer. Pourquoi méditer? Parce que méditer, ce n'est pas lire. Et lire n'est pas forcément méditer. Oh oh! Est-ce que j'aide quelqu'un ce matin? Ce matin, hein, au premier culte, j'ai fait l'introduction. Maintenant, je suis en train de rentrer dans les clés. J'ai des cortiques maintenant. Et si quelqu'un est avec moi, alléluia, si quelqu'un suit jusqu'à la fin, je vous garantis que votre vie ne sera plus jamais la même. Je vous garantis que le succès viendra dans votre vie et la réussite sera aux portes de vos études. Quelqu'un ici acclame Jésus, alléluia. Je parle de la parole de Dieu. Qui est comme un fleuve d'eau vive. C'est un courant d'eau. Alléluia. Et comme un arbre, Dieu te représente là comme un arbre. Tu es un arbre. Lorsque tu médites la parole de jour et nuit, tu es comme un arbre qui est planté près d'un courant d'eau. Quelqu'un me comprend ici? C'est important cette image parce qu'il y en a qui ne comprennent pas l'importance de lire la Bible. Ils se disent, mais ça devient lourd, ça devient fastidieux. C'est une discipline un peu très rigoureuse et puis très contraignante. Non, c'est parce que tu n'as pas compris la portée spirituelle de lire la parole, de la méditer la parole. La Bible prend l'image d'un arbre. Tu es comme un arbre. Et lorsque l'arbre est connecté à l'eau, elle reçoit les ressources nécessaires qui lui permettent d'être en bonne santé, en pleine forme, et puis qui est stable, qui ne bouge pas, quels soient les vents. Il y a des arbres, quels que soient les vents, my God, ça peut plier, tu as l'impression que ça va tomber, non, mais ça ne revient pas. parce que c'est bien planté. Alléluia. Et les racines sont en profondeur, et enracinées en profondeur. Et c'est ta vie. Je parle de ta vie. Alléluia. Imagine ta vie comme un arbre. Alléluia. Comme un palmier royal. Et les arbres qui sont de cette posture ont leur force, tirent leur force et leur résistance dans la profondeur de leurs racines. Et ces racines sont irriguées par le courant d'eau. Et là, la parole nous révèle, c'est que le courant d'eau, là, c'est le Saint-Esprit. Donc quand tu lis la Bible, tu la médites jour et nuit, tu es comme cet arbre, bien planté, tes racines vont en profondeur, plus tu découvres la parole de Dieu, les principes, les lois du royaume, les secrets de la parole, plus tes racines vont en profondeur. Aïe, arrive aussi, kamama, j'aide quelqu'un ici, là. Alléluia. Si j'ai quelqu'un fait la main comme ça, je sens que je vais rentrer en profondeur encore. Donc voilà pourquoi je veux que vous puissiez rester connectés. Amen, amen, amen. Et plus tu vas en profondeur, plus tu prends des nutriments. Et quand tu prends tout ça, ça monte en toi, ça devient une sève. C'est la vie de l'esprit. Et quand ça irrigue le tronc, ton être entier, ou tes branches, ça produit des feuilles. C'est l'aspect verdoyant. Tu es épanoui. Tu es heureuse. Tu es joyeuse. Tu es joyeux. Tu es heureux. Il n'y a pas de dépression pour toi. La vie est belle pour toi. Tout va toujours bien. Comme la tsunami, ça va, tout va bien. Il y a les épreuves, mais tu considères l'épreuve comme un sujet de joie complète et comme un moyen de faire tes preuves. Une occasion de faire tes preuves. Quelqu'un me comprend ici? Et en plus de cela, le feuillage verdoyant, il y a les fruits que tu vas porter. C'est-à-dire les œuvres. Le fruit, tes attitudes, tes comportements, tes actions. C'est ce que les gens vont voir à l'extérieur. Quelqu'un me comprend ici? Ton caractère, qu'est-ce que ça reflète? Est-ce que tu es quelqu'un de docile, d'obéissant, de sage? Tout ça, c'est le Saint-Esprit qui va produire ça en toi. God, God, est-ce que j'aime quelqu'un ici? Alléluia! Donc même l'intelligence que tu vas avoir sera le fruit de l'Esprit. Alléluia, 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 alléluia! Même l'intelligence que tu auras sera le fruit de l'esprit. Oh my God. C'est pourquoi je vous invite à venir avec moi dans le livre du psaume. Le psaume chapitre 119. Psaume chapitre 119, verset 130. Le psaume 119, verset 130. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, les révélations, ou du moins la révélation pour moi, la révélation de tes paroles est claire. Elles font quoi? La révélation de tes paroles est claire. Et donne de l'intelligence. Ah, pourquoi je vais lire la Bible tous les jours? Pourquoi je vais la méditer tous les jours? C'est tellement fastidieux, c'est tellement rigoureux, c'est tellement exigeant, contraignant. Pourquoi je suis obligé de faire ça? Le fait seulement de lire la Bible, là, ça suffit? Non! On a compris que premièrement, le fait de lire la Bible nous connecte à la source de nos ressources. La source de notre intelligence. Alléluia! Et donc, le fruit qu'on va porter, ça va découler de cette source-là, notre créativité, nos œuvres, notre attitude, nos tempéraments, nos comportements, tout ce qui est, notre personnalité, ça va nous construire, ce qui va faire de nous ce que nous sommes, le fruit qu'on va porter, la paix, la joie, la sérénité devant les épreuves, tout ça, là, ça va, en fait, ça va être le fruit, justement, de cette connexion avec la parole de Dieu. Et là, maintenant, deuxième raison qui nous amène à comprendre la nécessité de la méditer, c'est que la parole de Dieu, lorsqu'on la médite, la Bible déclare que la révélation de ses paroles nous éclaire. Éclairer ici, c'est la lumière. Le mot révélation veut dire lumière. Donc le fait que tu médites la parole de Dieu, on n'a pas dit de lire seulement. Le mot méditer ici, c'est méditation. Dites méditation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire réflexion. Je m'arrête, je réfléchis sur ce que je lis, je me pose des questions, j'essaie de comprendre, je pèse le pour et le contre, j'essaie de prendre le texte que je suis en train de lire et je le confronte à ma vie, j'essaie de voir qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner par là, par rapport à ce que je vis. Et maintenant, lorsque je réfléchis comme ça, la Bible déclare qu'en ce moment-là, je suis en train de méditer. Et parce que je suis en train de méditer comme ça, le Saint-Esprit va ouvrir mon esprit, ce qu'on appelle la révélation, et va m'éclairer. Et quand maintenant je vais être éclairé, le fait d'avoir reçu la lumière me donne de l'intelligence. Quelqu'un ici acclame le Seigneur. Alléluia. Donc, la parole de Dieu nous donne de l'intelligence. Et la parole de Dieu nous donne de l'intelligence. Waouh. Je cherche l'intelligence. Parfois, il y en a même qui payent des cours, des formations pour développer leurs neurones, pour booster leur QI. Et développement de QI, développement de neurones, etc. Tu payes des formations très très chères. Ne paye pas des formations chères pour rien. Il y a un meilleur moyen de booster ta mémoire. Il y a un meilleur moyen de booster ton intelligence. Médite la parole de Dieu jour et nuit. Tous qui ont pratiqué ça ont reçu l'intelligence. Qu'est-ce qui se passe à ce moment? Non seulement tu as de la réflexion, comme on a vu, parce que méditer c'est ça, savoir la réflexion. Donc le Saint-Esprit va influencer ta réflexion. Le Saint-Esprit va t'amener les réponses aux questions que tu te poses, parce qu'il y a des choses que tu vas lire dans la Bible que tu ne comprendras pas. Alléluia. Alléluia. Mais le Saint-Esprit va t'éclairer. Mais comment il arrive à t'éclairer? Proverbe chapitre 20, verset 27. Come on. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? J'essaie de me contrôler parce que je sens ça monte là, mais je dois être calme. Si je commence à prêcher, ça va être compliqué. Alléluia. Et Proverbe chapitre 20, verset 27 dit quoi? Gérez les enfants, s'il vous plaît, le moment est très crucial. Proverbe 20, verset 27, version Semeur, version Luc 21, ils ont la même version. Nous lisons, l'esprit de l'homme est une lampe que l'Éternel a donnée et qui sonde les profondeurs de l'être. Ton esprit est une lampe. Donc, quand tu médites la parole de Dieu, tu réfléchis. Le Saint-Esprit vient dans ton esprit. Oh oh, c'est pour comprendre le verset qui a précédé. Parce qu'il dit, la révélation de tes paroles est claire et donne de l'intelligence au simple. Mais comment ça se fait? Ça, c'est maintenant un autre niveau de compréhension. On a compris qu'en méditant la parole, le Saint-Esprit nous amène la lumière, nous éclaire et cette révélation nous apporte l'intelligence. Mais comment ça se fait encore? C'est que pendant que tu es en train de mettre la parole là, de réfléchir, en fait, pour que tu aies cette lumière là, cette révélation, le Saint-Esprit vient dans ton esprit. Parce que c'est ton esprit qui est une lampe que Dieu t'a donnée et qui sonde les profondeurs de l'être. L'esprit de l'homme est une lampe. Donc le Saint-Esprit vient dans ton esprit, se connecte à ton esprit. Et Jésus va prier pour ses disciples. Je retourne le passage parce que pendant que je suis en train de parler, il y a des versets qui me viennent à l'esprit. Rapidement, Seigneur, aide-moi à trouver ce passage. Vous gardez cette... Luc. Luc, chapitre 24, verset 45. Je suis en train de vous expliquer le processus. Comment ça se passe? Comment l'intelligence naît en toi alors que tu es en train de méditer la parole de Dieu, au moment où tu médites la parole de Dieu. Dans Luc, chapitre 24, verset 45, « Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les... » Écriture. Alléluia. Oh oh, est-ce que quelqu'un avec moi ici? Lève la main. Est-ce que j'ai perdu quelqu'un en cours de route? Non, ne te perds pas, connecte-toi. Le moment est très crucial. Nous sommes en train de rentrer dans les profondeurs des vérités, des secrets qui vont faire de toi un homme intelligent, un jeune intelligent, une jeune fille intelligente. Et tu vas réussir dans tes études à l'école. Tu ne vas pas échouer. Je déclare au nom de Jésus, tu seras toujours la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et jamais en bas. Il a dit, je ferai de toi la tête et non la queue. Tu es destiné à réussir, à être en haut, mais il faut que tu comprennes comment ça se passe. C'est ça ma mission, t'expliquer. Donc quand tu médites la parole de Dieu là, tu réfléchis, tu te poses des questions et tu retiens ce que tu dois retenir. L'Esprit de Dieu vient dans ton esprit. Il vient éclairer ton esprit parce que ton esprit c'est la lampe du corps qui explore ton être tout entier. Car lequel des hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. Et quand le Saint-Esprit vient habiter dans ton esprit, il ouvre ton esprit. Oh oh, le Saint-Esprit ouvre ton esprit. C'est le Saint-Esprit qui ouvre ton esprit. Et quand il ouvre ton esprit, tu reçois maintenant la lumière, la révélation. Tu comprends maintenant ce que tu lis. Tu comprends ce que tu étudies. Tu comprends ce que tu essaies de comprendre, les questions que tu te poses. Les réponses viennent. Elles viennent comme d'elles-mêmes. Pourquoi? Parce qu'il y a une... Tu t'es connecté à la source. Donc maintenant, l'eau est en train de jaillir et la vie est en train d'irriguer ton cerveau, en train de toucher tes neurones et toutes les limitations sont renversées et tout ce qui était bloqué, en fait, se débloque. Toute incompréhension est dissipée et maintenant, la lumière jaillit. La révélation naît et elle te donne de l'intelligence. Alléluia. Parce qu'elle a ouvert ton esprit. Parents, arrêtez de traiter vos enfants de bêtes ou de nuls. Ils ne sont pas nuls. Et priez pour vos enfants afin que Dieu leur ouvre l'esprit. Parce que parfois, ils essaient de faire des efforts. Ils étudient, mais ils n'arrivent pas à comprendre. Donc, on doit prier pour nos enfants pour que le Saint-Esprit illumine les yeux de leur cœur. Éphésiens, illumine les yeux de leur cœur. En fait, que Dieu ouvre leur esprit. Bien-aimés, c'est l'œuvre de Dieu. Aucun homme ne peut ouvrir son esprit à lui-même. Nous tous, on veut être de très grands intellectuels, n'est-ce pas? On aspire à comprendre. Mais pourquoi nous tous, on ne comprend pas les mêmes choses ou de la même manière les choses? Parce qu'il y a un niveau de compréhension. Si l'homme pouvait lui-même avoir ce niveau de compréhension, de lui-même, de par ses capacités, il l'aurait fait. La Bible déclare qu'il a fallu qu'il leur ouvre l'esprit pour qu'ils comprennent. Quelqu'un me comprend ici? Parents, priez pour vos enfants. Si vous voyez qu'ils sont butés devant une matière, butés devant une situation, ils n'arrivent pas à avancer. Vous faites tout, ils n'arrivent pas à avancer. Priez pour eux. Parce qu'à un moment donné, à un certain niveau, il faut que Dieu ouvre leur esprit. Oh oh! Il faut que Dieu leur ouvre l'esprit. Parfois, il y a des gens qui, en fait, ont l'esprit fermé. Non par leur propre volonté, de par leur faute. Mais parce que parfois c'est un héritage ancestral. Parfois ce sont des esprits méchants qui sont derrière, qui aveuglent l'intelligence. Il y a des esprits qui aveuglent l'intelligence. Quelqu'un me comprend ici? Je dis qu'il y a des esprits, il y a des démons qui aveuglent les intelligences des gens. C'est pourquoi Jésus a dû leur ouvrir l'esprit. Et il y a un autre mot qui m'intéresse, 2 Chroniques chapitre 36 verset 22. 2 Chroniques 36 verset 22. Seigneur, aide-moi, il y a tellement de choses à dire. 2 Chroniques, chapitre 36, verset 22. Il dit, la première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla, soulignez ce mot-là, ce verbe, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus. Aïe, 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 aïe. Dites réveilla. À un moment donné, on a besoin que Dieu réveille notre esprit. Qu'il ouvre notre esprit, qu'il réveille notre esprit. C'est des verbes différents. Ouvrir ce que c'était fermé. Réveiller ce que l'esprit était endormi. Oh oh. Donc il y a des gens qui n'arrivent pas à réussir, soit parce que leur esprit est fermé, donc il faut qu'il soit ouvert, soit parce que leur esprit est endormi, il faut qu'il soit réveillé. Pourquoi? Parce que l'esprit est la lampe du corps. C'est le point de contact qui reçoit les révélations d'en haut. C'est la lampe qui doit éclairer la vie de l'être humain. Son être tout entier, dans tous les domaines de sa vie. Donc, s'il manque d'intelligence à quelqu'un, soit son esprit est fermé, soit son esprit est endormi. Parce que Dieu ne crée personne sans intelligence. Tous les êtres humains que Dieu a créés, il leur a doté d'une intelligence. Oh oh! Est-ce que quelqu'un est avec moi? Qu'il agite sa main comme ça? Donc, ne dis jamais à ton enfant qu'il est bête, il est nul. Non! Et si tu es un enfant, tu es un jeune dans la salle, confesse avec moi, je suis intelligent. Quand Dieu m'a créé, il m'a doté d'une intelligence naturelle. Voilà. Et je brise les paroles que tes parents ont prononcées contre ta vie ou que tes instituteurs, tes professeurs ont prononcées contre ta vie dans le nom de Jésus. Je déclare que tu n'es pas nul, tu n'es pas bête, tu es intelligent parce que tu es une créature de Dieu. Alors acclame le Seigneur. In the name of Jesus Christ. Donc, tout le monde est créé avec une intelligence naturelle. Dieu t'a donné l'intelligence. Mais ce qui se passe, c'est qu'en fonction des milieux dans lesquels tu as grandi, tu es né, tu as grandi, en fonction des fréquentations que tu as eues, en fonction des choses que tu as pratiquées, en fonction de ton expérience de la vie, des choses auxquelles tu as touché, des interdits parfois, ton esprit peut être soit fermé, soit endormi. Maintenant, la Bible nous déclare qu'en méditant la parole, en étant en connexion à la Bible, ton esprit est réveillé et ton esprit est ouvert. Dieu ouvre ton esprit. Alléluia. Il t'accorde la révélation qui t'éclaire et en ce moment, te donne de l'intelligence. Daniel chapitre 8, chapitre 1, verset 8. Daniel chapitre 1, verset 8. Est-ce que c'est verset 8 que je dois lire? On va lire à partir du verset 1 même. La troisième année du roi, la troisième année du règne de Josachim, roi de Juda, de Nebuchadnezzar, dans notre version de Nebuchadnezzar, encore de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et la siégea. Le Seigneur livra entre ses mains Josachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, Naz dans cette inversion, tu n'es pas Naz, au nom de Jésus, chef des eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de sa race, de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, et à qui l'on enseignerait les lettres et les langues des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion de mets et sa table, des portions de mets de sa table, tant pour moi, et du vin dont ils buvaient. Voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Donc, c'était une formation accélérée au leadership royal. Avec vraiment des contraintes, un régime contraignant, mais vraiment bien choisi. On comprendra pourquoi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël, ou encore Michaël. Il y a une histoire derrière ces prénoms-là. Et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms. À Daniel, celui de Belshazzar. À Anania, celui de Shadrach. À Michaël, celui de Meshach. Et à Azaria, celui d'Abel-Nego. Donc ça, c'est l'origine de l'histoire de Shadrach, Meshach, Abel-Nego et Daniel. Les amis de Daniel. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Et à cause de cela, Dieu fit trouver à Daniel grâce, faveur devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, « Je crains mon Seigneur, le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. » Alors Daniel dit à l'intendant, à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, d'Anania, de Michaël et d'Azaria. Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi. Et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Il leur accorda ce qu'il demandait, et les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleure mine, meilleur visage, et plus d'embonpoint. Dans d'autres versions, ils étaient plus en bon point que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi et qui buvaient le vin du roi. L'intendant emportait les mets et le vin qui leur étaient destinés et il leur donnait des légumes. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Quand vous lisez la suite, quand on est allé devant le roi a trouvé qu'ils étaient 10 fois plus intelligents que tous les autres jeunes. Quelqu'un s'y calme, Seigneur. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils ont refusé de manger les mets du roi, de boire le vin du roi. Et pourquoi ils ont refusé ça? Je vous passe beaucoup de détails. L'explication la plus importante, c'est que ce vin et cette nourriture étaient sacrifiés aux idoles, aux dieux de Babylone. Et s'ils mangeaient cette nourriture et buvaient ce vin, leur intelligence se fermerait. Oh oh! Il y a des nourritures, il y a des boissons qui conditionnent notre physique, notre métabolisme, notre être psychologique et notre intelligence et qui déterminent nos actions. Par exemple, pour avoir certaines vertus, il y a des produits que certains consomment. Aujourd'hui, il y a des produits, par exemple, qui changent même le métabolisme du corps. J'ai vu un là qui a voulu être musclé comme qui, il était fada de quel acteur. Là, il voulait être musclé comme cet acteur. Il a pris des choses qui l'ont déformé complètement, malheureusement, pour lui. Il y a des vins qui ont de certaines vertus. Et les vins du roi avaient des vertus à incliner les cœurs du peuple vers l'adoration de ses dieux. Oh oh! Voilà pourquoi quand Jésus vient, il parle du vin nouveau. Oh my God! J'ai envie d'aller plus en profondeur, mais je sens qu'il y en a qui sont plus très constants. Est-ce que quelqu'un avec moi encore se... Je peux avancer? Donc, Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego ont eu la révélation qu'il ne fallait pas manger cette nourriture sacrifiée au dieu de Babylone. Parce que s'ils mangeaient cette nourriture, qu'ils buvaient ce vin, leur cœur s'inclinerait plus facilement à l'adoration des dieux de Babylone. Ils voulaient rester fidèles à leur dieu. Maintenant, voilà comment Dieu va les confondre. Va confondre les sages de Babylone. Alléluia. Et Dieu va donc inspirer à Daniel un régime alimentaire. Aïe, 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 aïe. Ils ne devaient manger que des légumes. Légumes. Et lorsqu'ils ont mangé que des légumes, ils n'ont pas mangé la nourriture du roi, ils n'ont pas bu le vin du roi, ils avaient meilleure mine, ils étaient en bonne santé, et ils étaient 10 fois plus intelligents. Ça veut dire quoi? La nourriture du roi ici représente ce que le diable donne. Qu'est-ce que tu manges à longueur de journée? Dis-moi ce que tu manges et je te dirai pourquoi tu n'es pas intelligent. Pourquoi ton intelligence est fermée? Pourquoi ton intelligence est endormie? C'est en fonction de ce que tu manges. Si tu manges tout le temps la musique du monde, c'est normal que ton intelligence soit paramétrée en fonction de ce que tu entends. Si tu manges tout le temps ce que tu regardes sur Internet, Facebook, Twitter, tu es sur des sites Internet bizarres. Je ne sais pas ce que tu manges. Qu'est-ce que tu consommes? Qu'est-ce qui nourrit ton esprit? Parce qu'on a vu que notre esprit est la lampe du corps. Tout se passe dans notre esprit. L'intelligence naît de l'esprit. Que mange ton esprit? Oh oh! Qu'est-ce que tu manges dans tes lectures? Non, moi, ce n'est pas comme ça. Moi, c'est comme ça. Alléluia! Comme ça, c'est Mohamed Sanogo. C'est un ami. Mais moi, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu manges? Ce que tu manges détermine l'état de ton esprit. Ils ont refusé de manger la nourriture du roi, les vins du roi. Il y a des vins, quand tu les bois, ça t'excite. Ça excite ton corps, ça réveille des sens. Ok? Voilà. Il y a des vins, quand tu les bois, ça touche les neurones. Tout d'un coup, quelqu'un qui ne parlait pas beaucoup, il devient journaliste. Bonjour les frères! Je suis très content d'être là avec vous. Alors, considérant le fait que maintenant, dans une certaine mesure, et le contexte qui se prête à ce moment, là, vous sentez que là, quelque chose qui se passe ici. Là. Lui qui était tout calme, il devient bavard. Pourquoi? Parce que ce qu'il a bu comme vin a stimulé des neurones. Vous comprenez ici? Là? Donc, il commence à devenir... D'autres, ça le pousse à autre chose. Ok? Je ne vais pas en parler ici. Bref. Hein? Bon, quand vous serez mariés, venez me voir... On aurait certains topos aussi pour certains célibataires. Et puis quand on sera à l'école de mariage, je vous montrerai certains topos aussi pour ceux qui veulent avoir l'intelligence conjugale. Hein. Ça existe, n'est-ce pas? Mais si je parle du vin nouveau, il n'est pas dit que Daniel ne buvait pas de vin. Il ne buvait pas le vin du roi. Il n'est pas dit que Daniel ne mangeait pas de nourriture. Il ne mangeait pas la nourriture du roi. Et la question que je te pose, quel vin bois-tu? Quelle nourriture manges-tu? Nous, les chrétiens, on doit boire le vin nouveau. Le vin nouveau, c'est le Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte, quand ils ont bu de ce vin, ils étaient tellement ivres que j'ai dit, mais ils sont ivres de vin doux. Ils ont dit, non. Ici, c'est l'accomplissement, la prophétie dont a parlé, ont parlé les prophètes. Et Jésus le maladie, vous recevez une puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Ils étaient ivres du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a agi comme un vin qui a stimulé leurs neurones. Et voilà que quelqu'un qui était timide comme Pierre devient courageux et prend la parole devant des milliers de personnes. Et ce jour-là, 3000 personnes se convertissent. Le courage de parler devant le public. Le courage de parler pour sa soutenance devant un jury composé de grandes têtes, de grosses têtes, hommes influents. Il n'avait pas peur. Parce que justement, ce qu'il disait lui a été donné à l'instant même, inspiré par le vin nouveau, le Saint-Esprit qui est en train de détacher ses neurones, qui est en train de reparamétrer toutes choses, rappeler ce qu'il avait étudié, amener de nouvelles idées qui arrivent, novatrices, créatrices, à l'instant même, les choses qui lui étaient données, qui devaient dire, lui étaient données à l'instant même par le Saint-Esprit. En fait, c'est un vin qui te donne de la créativité, de l'imagination, de l'innovation. C'est le vin du Saint-Esprit. Il ne se vend pas au champ. Oh oh, il ne se vend pas à Carrefour. Il ne se vend même pas dans les vignobles de Bordeaux. Non, ce vin-là, il se trouve dans la parole de Dieu. Quand tu médites la parole de Dieu, tu es en contact avec ce vin. Ce vin s'appelle l'onction. Oh oh, bien aimé, il y a une onction pour toute chose. Il y a une onction pour être un homme d'affaires. Il y a une onction pour être un homme politique. Il y a une onction pour être prédicateur. Il y a une onction pour être pasteur. Il y a une onction pour être prophète. Il y a une onction pour être intelligent. Alléluia. J'ai dit qu'il y a une onction pour être intelligent. J'ai dit qu'il y a une onction pour être intelligent. Alléluia. Il y a une onction pour réussir à les études. Alléluia. Il y a une onction pour réussir dans les études. Je suis en train de chercher ce passage-là de Bezalel. Pasteur Léonard, tu vas m'aider. Vous prouvez qu'il y a une onction pour être un bon étudiant. Il y a une onction pour avoir de l'intelligence. Il y a une onction pour réussir dans les études. Rappelez-toi qu'il a où à Bezalel? C'est dans Josué? Exode, merci. Exode chapitre 31, verset. Voilà, je l'ai. En fait, je l'avais noté, mais je ne le retrouvais plus. Exode 31, verset 3. Il dit, je l'ai rempli de l'esprit, dans d'autres versions, c'est l'onction, de sagesse, d'intelligence. Notez ça, je l'ai rempli de l'esprit de sagesse et d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Bien-aimé, ce vin nouveau, qui n'est rien d'autre que le Saint-Esprit, lorsque tu le bois, non seulement tu n'as plus envie de boire le vin de ce monde, tu n'as plus envie de boire le vin du roi, alléluia. Cette nourriture, quand tu la manges, il s'agit du pain de vie, donc la parole de Dieu, tu n'as plus envie de manger la nourriture du roi, tu n'as plus envie de manger la nourriture du roi Cyrus, Nebuchadnezzar et autres, c'est-à-dire que tu n'as plus envie de manger la nourriture de Satan, de ce monde, mais tu as envie de manger la parole de Dieu et de boire l'onction du Saint-Esprit, de te remplir de la plénitude du Saint-Esprit. Et la Bible déclare que lorsque tu es rempli de la sorte, Dieu t'accorde l'intelligence et la sagesse. Et en plus de cela, le savoir, dites le savoir, pour faire toutes sortes de choses. C'est quoi la différence entre l'intelligence, la sagesse et le savoir? Le savoir, c'est la connaissance. Et la Bible dit que par la connaissance, ta maison se remplit de richesses. Dieu peut te donner l'intelligence. Tu as la sagesse. L'intelligence, c'est dans la tête. Tu es illuminé, tu as les lumières, tu es éclairé. Tu sais ce qu'il faut faire. Tu as donc des inspirations. Tu deviens créatif, inventif. Voilà, tu lances des concepts, tu lances des idées. Vraiment, c'est formidable. Tu as du succès. Ça, c'est l'intelligence. Tes neurones sont vraiment bien développés. Là. C'est, le QI, là, c'est waouh, il est boosté. Tu es inspiré. Ça, c'est l'intelligence. 1. 2. La sagesse. La sagesse, c'est comment tu te comportes maintenant. C'est le comportement. La sagesse ne touche plus les neurones. Elle touche les comportements, les attitudes que tu vas avoir. Donc, comment tu gères cette intelligence-là? Donc, l'humilité, le discernement, savoir faire les choses qu'il faut. Tu n'es pas orgueilleux. Voilà, ça, c'est la sagesse. Tu es humble, tu fais les choses comme il faut, tu respectes les gens, ça ne te prend pas la tête, ça ne te monte pas la tête, même si tu es talentueux. Parce que l'intelligence te donne du talent. L'intelligence te donne du talent. Mais la sagesse t'accorde le caractère. Oh oh! Maintenant, le savoir, c'est quoi? Le savoir, c'est la connaissance qui va te permettre d'allier l'intelligence à la sagesse pour obtenir un résultat. Quelqu'un ici acclame Jésus. Amen, 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 amen. Plus fort, plus fort. Acclame Jésus plus fort. Alléluia. Et c'est ça qui conduit à la réussite. Si les gens réussissent dans la vie, c'est parce qu'ils ont le savoir. Le savoir être. Le savoir faire. Le savoir vivre. Ça, c'est le secret de la réussite. Tu es talentueux, tu es intelligent, tu sais bien jouer au foot. Tu as toutes les techniques, même Neymar, c'est rien. Mais après, quand quelqu'un te tape, enfin, te fait une fausse, c'est pas un faux geste, c'est tout, tu t'énerves, tu courboule, boum. L'arbitre dit, tu fais encore l'arbitre, petit, tu es intelligent, talentueux. Mais là, je crois qu'il t'a manqué de savoir vivre. Il sort carton rouge, boum. Dehors. 4 matchs suspendus. Et quand tu sors comme ça, hein, au vestiaire, quelqu'un me comprend ici? Non, il est intelligent, il est talentueux, il est doué, mais il y a un problème de caractère, il est pas sage. Et de deux, il manque de savoir, savoir vivre. Tu ne peux pas réussir comme ça. Combien de jeunes ont loupé des carrières de directeur dans leurs entreprises? De jeunes ingénieurs, de jeunes cadres dynamiques, comme je les appelle les JCD. Très intelligents, compétents. Mais parce qu'ils n'ont pas eu le bon caractère. Ils n'ont pas eu la bonne attitude. Ils n'ont pas eu le savoir-être, le savoir-vivre en entreprise. Ils ont tourné en rond pendant des années. Il y en a qui ont été même licenciés. Il y en a qui ont fini leur carrière au même point, qui n'ont pas pu atteindre les dimensions de promotion auxquelles Dieu les a destinés. Je parle des clés du succès et de la réussite. Si quelqu'un est béni ce matin, qu'il acclame le Seigneur. Cela est valable dans les études, cela est valable dans la famille, cela est valable dans le ministère, dans l'église, dans les entreprises, cela est valable. Ce sont des lois transversales, je vous ai dit, ce sont des principes transversaux. Ça touche tous les domaines de la vie. Tous les domaines de la vie. C'est pourquoi un chef, même s'il marche nu, couvre sa nudité, respecte-le. C'est le savoir vivre. Quand David a compris ça, et quand le roi était saisi par sa folie, imagine le roi, quand l'esprit de folie l'attrapait là. Un fou, c'est un fou. Hein? Vous pouvez imaginer le fou, il a parfois des trucs bizarres, des fois il a. Il fallait que David vienne pour jouer à la harpe, pour calmer l'esprit. Et le fou, qu'est-ce qu'il faisait? Le roi devenait fou. Donc, mais David était dans le palais royal. Les gens à l'extérieur ne connaissaient pas ce qui se passait, mais David voyait la nudité du roi. Parce que le fou, quand il est fou maintenant, ça monte à la tête, il enlève les habits. Et maintenant, le roi, on appelle David pour venir. David avait déjà reçu l'onction royale. Il était destiné à être roi, n'est-ce pas? Il était intelligent, compétent. Il était vraiment un homme, un jeune homme de 17 ans, doué. Maintenant, Dieu est en train de travailler quoi? La sagesse, le caractère. Il travaillait quoi? Le savoir-être, le savoir-vivre. Et donc, Dieu le met devant une situation où il va voir la nudité du roi. Le roi s'ahurit, il devient fou. Il commence à enlever les habits. Et quand il est fou, parfois, ils sont des trucs bizarres. Des fois, ils deviennent genre chien, ils deviennent... Ils font un peu tout truc bizarre, quoi. Mais David ne riait pas. Il était sérieux, quand tu as joué là. Mais dans son cœur, il disait, « Oh Seigneur, vraiment, délivre le roi. » Et quand il sortait de là, il gardait ça pour lui. Il n'allait pas crier dans le quartier. Le roi que vous voyez là, je vous dis qu'il est fou. Non. Quelqu'un me comprend ici? Dites le savoir vivre, le savoir être. C'est à cause de ça, David a été élevé. Quelqu'un me comprend ici? Je parle des clés. du succès et de la réussite. Il dit, soyez fidèles dans les choses d'autrui et Dieu vous confiera les vôtres. Il dit, Dieu faisait prospérer entre tes mains. C'est Potiphar qui parle à Joseph. Il dit, j'ai vu que Dieu fait prospérer mes affaires en tes mains. Sois fidèle dans les choses d'autrui. Sois fidèle à la maison. Il faut servir quelqu'un. Parce que vois-tu, je vais bientôt finir. Je te donne une clé très importante. Très, très importante. Dans la vie, l'homme obéit à un cycle. Un cycle en quatre étapes. Première étape. Tout être humain commence toujours par travailler pour quelqu'un. Toujours pour quelqu'un. Quand tu es enfant, tu travailles pour les parents. Les parents t'envoient à l'école. Ils attendent de toi que tu puisses avoir de bons résultats. Tu dois tout faire pour satisfaire tes parents. Quand tu es jeune employé, tu travailles pour un employeur, pour un chef, un patron, pour faire plaisir à ton patron. Ça, c'est le premier niveau, première étape du cycle de la vie de l'homme. Le cycle, tu peux l'appeler comme tu veux, le cycle du succès, le cycle de la réussite, le cycle de la vie. On travaille pour quelqu'un. Deuxièmement, quand on a été fidèle à les choses d'autrui, Dieu nous confie maintenant nos propres choses, on travaille pour nous. Alléluia. Ok. Troisièmement, quand on a bien travaillé pour nous, on a bien profité effectivement de l'école de Joseph chez Potiphar, de l'école de Jacob chez Laban, malgré les tribulations, malgré les injustices, malgré les accusations que Joseph a subies, que Jacob a subies chez Laban, Joseph chez Potiphar, il est resté fidèle dans les choses d'autrui. Malgré que la femme de Potiphar a voulu coucher avec Joseph, Joseph a refusé, il est resté fidèle, comme Daniel est resté fidèle à son Dieu. Et comme l'a dit la Bible, il a agi fidèlement selon tout ce qui est écrit. Il est resté intègre, il a craint l'Éternel. Il s'est retrouvé en prison. Parfois, tu vas te retrouver en prison à cause de ta fidélité, à cause de ta loyauté. Parfois, tu vas te retrouver dans des prisons, dans des épreuves, à cause de l'injustice des hommes, parce que tu crains Dieu. Mais réjouis-toi quand tu souffres pour Christ, parce que ta joie sera grande et ta récompense, ta bénédiction sera grande. Et reste ferme, ne cède pas, car à celui qui est ferme, je dis à celui qui est ferme dans ses sentiments, Dieu assure la paix. Le jour de la paix viendra. Et mon frère, la paix viendra. Et quand la paix arrive, il te sort de la prison, il te donne ce qui est à toi, il t'élève, il te fait asseoir sur la table avec les grands. Les portes s'ouvrent pour toi. Ce que tu gagnais autrefois et qu'on t'a gelé pendant des mois, tu vas gagner 7 fois plus. Au nom de Jésus. C'est la récompense de la justice divine. Il y avait Tikkunou se manifeste, il se révèle à toi. Il te rend ce qui t'a été dérobé, qui t'a volé, les années que les sauterelles ont dévoré pendant combien d'années. Il te rend ça 7 fois plus. Et même au centuple. C'est pour toi. Je dis que c'est pour toi. Je dis que c'est pour toi. C'est pour toi au nom de Jésus. C'est pour toi au nom de Jésus. Et là, tu rentres dans ce qui est à toi, papa. C'est la deuxième étape du cycle. Du succès et de la réussite. Troisième niveau, quand tu travailles pour toi, tu travailles loyalement, tu deviens riche, non pour toi, mais pour Dieu. Dieu te prend de là, il te met dans le repos. Et il va susciter autour de toi des collaborateurs, des hommes, des vaillants guerriers. Comme autour de David. Maintenant, tu passes au niveau où tu ne travailles plus pour toi, mais d'autres personnes travaillent pour toi. Un, tu travailles pour quelqu'un, tes parents ou le patron. Deux, tu travailles pour toi. Trois, les autres travaillent pour toi. Maintenant, quand tu travailles, quand les autres travaillent pour toi, Dieu te met dans ce qu'on appelle le repos. Et quand tu arrives à ce moment-là, tu es libéré. Tu n'as plus besoin de te lever tôt le matin pour aller travailler, faire des distances, ah là 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 là, et après venir prêcher l'évangile. C'est fini maintenant. Les autres travaillent pour toi. Tu rentres dans le repos maintenant. Tu as des bons collaborateurs autour de toi. Tu peux ne pas être là maintenant. Là. L'église est gérée. Le ministère est assuré. Alléluia. L'entreprise est gérée, maman Nina. Hein? Tout est géré. Tu peux te tranquille maintenant. Maintenant, tu es libre. Maintenant, quand tu es libre comme ça, le repos là, tu fais quoi? C'est même pas pour dormir. Non! C'est maintenant que tu arrives à la quatrième étape où maintenant toi tu dois travailler pour le Seigneur. Wouh! Quelqu'un ici acclame le Seigneur, alléluia. Quelqu'un acclame Jésus, quelqu'un acclame Jésus, quelqu'un acclame Jésus. Et j'aspire à ce moment où je vais être en plein temps, à 100% à servir Dieu. Mais il faut que tu comprennes. Alléluia. Il faut que... Lève-toi là où tu es, acclame Jésus. Acclame Jésus, acclame Jésus. Seigneur, merci parce que ce temps arrive. Ce temps arrive pour moi, ce temps arrive pour mon frère, pour ma soeur. Quel que soit son domaine de prédilection, ce temps arrive. Des temps de repos. Là, tu expérimentes Jéhovah Sabaoth. Shalom, le Dieu de paix. Sabaoth, il combat tes combats. C'est son petit challenge. Quand il y a des défis dans l'entreprise, c'est son petit défi. Manina. Quand il y a des défis dans le ministère, c'est son petit défi. Quand il y a des défis, des épreuves dans la famille, c'est son petit défi. Tes combats, c'est son petit combat. À ce niveau de la vie, du cycle de la vie de l'homme, tes combats ne sont plus tes combats. Tes combats deviennent les combats de l'Éternel. Toi, il dit, ne promène plus de regard inquiet. Il dit, dors seulement. Regarde. Tu verras la rétribution des méchants. C'est maintenant l'Éternel qui combattra pour toi. Toi, vaque aux occupations du royaume de Dieu. Vaque à la prière et à la parole. Sers Dieu. Tu expérimentes Jéhovah Sabaoth, il combat tes combats. Tu expérimentes Shalom. Jéhovah Shalom. Le Dieu de paix. Et Dieu veut la paix de ses serviteurs. Et là, tu sers Dieu en paix. Et l'entreprise croît. L'entreprise grandit. La grâce de Dieu affecte l'entreprise. Il n'y a rien qui peut arrêter. Le pouvoir, le puissant des ténèbres s'élève contre ta vie. Rien ne peut l'atteindre. Les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre ta vie, ne prévaudront point contre ta vie, contre ton entreprise, contre ta famille. Rien à faire. Le diable, les démons, les sorciers ne pourront rien faire contre ta vie, ne pourront rien faire contre tes études, ne pourront rien faire contre tes projets, ne pourront rien faire contre ton avenir. Parce que tu es arrivé au niveau où maintenant tu expérimentes Jéhovah Sabaoth, Jéhovah Shama, Jéhovah Shalom, le Dieu de paix. Les parents, vous restez debout autant pour moi, les parents. Je demande à tous les enfants, les jeunes, les étudiants de venir ici devant. Alors qu'on m'apporte, on me prépare cette assiette d'huile, ce récipient d'huile. Les enfants, les étudiants, vous venez ici devant.
Viens déposer.
Thank you, Lord.
Les fardeaux que tu portes.
Tu es à l'école? Tu es au collège, tu es au lycée, tu es à l'université, dans une école, tu fais une formation universitaire, une formation professionnelle en alternance, peu importe. Tu es peut-être en train de préparer un examen, tu es peut-être un thésard, prépare une thèse, un doctorant, une doctorante. Approche-toi.
Dans cet âge.